Je vous invite à entendre un passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 15 tout d'abord. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançaient devant eux jusqu'à ce qu'ils vinssent s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement averti en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Voilà, après cette lecture de Matthieu, je vous invite à prendre le chant 178, aux nuits bienveillantes. Hein. Vous levez. Hein. Là, je vous invite maintenant à entendre l'évangile de Luc. Après les mages, les bergers, ce qui est assez logique en général. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville, et Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et qui montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste, en masse, qui chantait les louanges de Dieu et qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Et on va prendre le 168, « Sortez bergers de vos retraites ». Et enfin, comme troisième texte, je vous invite à entendre et réentendre le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, et tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Et je vous invite à prendre le psaume 96. Je vous donne quelques réflexions sur les textes qui ont été lus tout à l'heure, des textes qu'on lit toujours à Noël, évidemment, et ils n'ont pas sans poser problème. D'abord parce que Marc ne dit rien à ce sujet. Marc commence mis en tête par le ministère de Jésus alors qu'il est déjà adulte. Si on y regarde un peu plus près, pardon, Matthieu et Luc nous présente ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qui sont des écrits un peu tardifs, qui ont été rajoutés par des mains inconnues au corpus de l'Évangile. Mais cette naissance d'un dieu ou d'un fils de dieu, ça sent un peu le paganisme quand même, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Parce que dans l'Antiquité, ça ne devait pas gêner les gens, parce que dans tous les récits qu'on raconte, dans les mythologies, il y a beaucoup de dieux qui s'incarnent, qui naissent, de couples qui se forment entre un dieu et une mortelle, etc. Enfin bref, ce genre de récit ne manque pas. Mais quand même toujours un petit peu étonné, quand on fait ce type de comparaison, de voir que dans le Nouveau Testament, boum, on retrouve ce genre de réflexion. Ce n'est pas sans poser de problème, surtout si Marc ne dit rien, et que Jean, lui non plus, ne dit pas grand-chose à ce niveau, puisqu'il décide de commencer son évangile, si tant est que ce soit lui qui l'ait écrit, mais enfin peu importe, qui a écrit ce prologue, par ce fameux prologue là que je vous ai lu, qui est une entrée en matière purement théologique, un discours philosophico-théologique, qui s'appuie sur la sagesse de la Bible. Et ça, je crois que c'est important, si on veut comprendre le prologue de Jean, il faut absolument lire les textes de sagesse, les proverbes, le Siracide, etc., enfin bref, et où on voit la sagesse qui est tout à fait semblable à ce que dit Jean à propos de la parole ou du verbe. Et puis, Jean est sûrement aussi influencé par le néoplatonisme de Philon d'Alexandrie ou de ses disciples, vraisemblablement aussi. Et donc là, il y a un mélange aussi qui est assez curieux pour cette inauguration de l'Évangile. Pourtant, c'est un très beau texte lui aussi, évidemment. En fait, la naissance de Jésus reste dans le secret, hein, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut rester raisonnable, disons. Peut-être, je ne sais pas si c'est complètement idiot ce que je dis, peut-être faux, j'en sais rien, mais si on est raisonnable, on peut penser que Jésus est né à Nazareth, hein, tout simplement, dans la famille du charpentier local. Hein. Il me semble assez logique, vous voyez. Alors vous me direz, c'est peut-être un petit peu iconoclaste de vous dire ça, avec cette banalité, le jour de Noël, où on aimerait bien qu'il y ait les bergers et les mages tout autour de cette crèche, avec toutes ces couleurs, ce folklore, etc. Mais en fait, je pense personnellement que Jésus est bien né à Nazareth dans la famille de Joseph et de Marie, et que c'est l'aîné de sa famille, comme ça se dit plus tard d'ailleurs dans les évangiles, puisqu'il a plusieurs frères et sœurs. Marc ne s'est intéressé qu'au ministère de Jésus, il n'y a que ça qui l'intéresse. Finalement, il est peut-être celui qui a raison sur les quatre évangélistes, parce que c'est ça qui compte finalement. Il s'intéressait au ministère, alors que Matthieu est assez sobre lui aussi, finalement. Alors, mais c'est vrai que dans cet évangile de Matthieu surgissent ces mages qui viennent de je sais pas trop où. On ne sait pas où est-ce qu'il est allé pêcher cette histoire des mages. Là, on peut toujours faire des développements. Il y a un enseignement là-dedans, évidemment. Mais ces mages, ils surgissent comme cela de l'Orient, avec leur science, leurs mathématiques, leurs mystères aussi, évidemment. Et puis, il y a Luc qui lui a un évangile de l'enfance qui est extrêmement développé avec un tas de personnages, et puis vous savez que vraisemblablement l'œuvre de Luc ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus, mais se poursuit tout au long des actes des apôtres, au moins dans la première partie des actes. Et donc il y a une œuvre de composition chez Luc qu'on perçoit assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, finalement? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ben, Jésus est né. Oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, malgré toutes ces légendes qui entourent Jésus ou ces récits purement théologiques, eh bien, je crois qu'il faut partir d'abord de cette constatation, c'est que Jésus est né. Il est né dans la Palestine du 1er siècle, au début de ce 1er siècle, ou à la fin du dernier siècle, évidemment, de l'Antiquité. Mais et je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que je me suis dit, cet enfant qui vient au monde, eh bien, elle est venue au monde comme tous les enfants du monde, et c'est déjà ce qui m'intéresse. Voilà. Se dire que Jésus est né comme vous êtes nés les uns et les autres, ici présents, et il est né en criant, comme tous les enfants du monde. Et lorsqu'on se balade dans les maternités et qu'on passe devant les salles de travail des parturientes qui accouchent, et lorsqu'on entend le cri de l'enfant, on dit tiens, Hein, il y a un enfant qui vient au monde et c'est toujours quelque chose de sympathique. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à Nazareth un jour avec la naissance de Jésus. Il a crié. Le cri de l'enfant, c'est le signe d'abord d'une souffrance. C'est bizarre que ça puisse sembler. Si les enfants crient, c'est parce qu'ils ont mal, puisque paraît-il, le poumon, à la première respiration, se déplie. Et que, paraît-il, c'est très douloureux. Certains psychologues disent qu'inconsciemment, on a vaguement le souvenir de cette souffrance et de ce cri. Mais ce cri, c'est aussi la vie. C'est le signe même de la vie. Et donc, en ce qui concerne Jésus, ce cri, c'est la première manifestation de l'incarnation. On peut raconter ce qu'on veut, mais ça fait partie de la réalité. Le cri de Jésus au commencement. La parole incarnée, c'est ce cri qui dit la vie de la manière la plus humble qui soit. Parce que ce qu'ont voulu dire les légendes autour de Jésus, c'est cette humilité qu'il y a. Le fait que Dieu, en voulant se manifester à travers Jésus dans le monde, n'a pas choisi la royauté hérodienne, n'a pas choisi la grande prêtrise du temple de Jérusalem ou les savants qui étaient les pharisiens, mais il a choisi l'humilité d'un enfant d'une famille lambda finalement, d'un pays un peu à l'écart. Et je crois que Matthieu et Luc, en signifiant cela, ont voulu nous faire passer un message particulier. Oui, il est né dans une étable, comme on dit, ou à l'écart, et des bergers étaient là, c'est-à-dire des personnages un peu équivoques, vivant avec les animaux et donc étant impurs, souvent de sombres brutes qui étaient obligés de se battre contre des fauves pour sauver leurs troupeaux et que sais-je encore. Ce sont ces hommes qui sont là, un peu rudes et un peu à l'écart, qui viennent honorer Jésus ou alors ces mages venus d'ailleurs, de nulle part, et qui sont païens, et qui viennent eux aussi. C'est assez curieux que Matthieu et Luc aient eu l'idée de nous faire passer ce message de l'humilité de la naissance de Jésus. Oui, Jésus est né. Il est né avec le cri de la vie, le cri de l'enfant qui vient au monde. Il est né du côté de l'humain. Il est pleinement humain. Et à ce cri, j'essaie de me représenter, il y a un écho qui va se faire tout au long du ministère de Jésus. Et il y a un autre cri qui est là, dans la Bible. Celui-là, il est mentionné, en revanche. Il est mentionné dans Luc, dans Marc et dans Matthieu. C'est Jésus poussa un grand cri et expira. Vous voyez, trois fois, la phrase est reprise à peu de choses près, dans les évangiles synoptiques. Pour exprimer ce cri de la souffrance, du désespoir de l'homme qui meurt. Jean est plus sobre, lui, il ne dit pas que Jésus crie sur la croix, il dit simplement qu'il a incliné la tête et qu'il est mort. Je trouve que c'est intéressant de voir que, au commencement de la vie de Jésus et à la fin de la vie de Jésus, il y a un cri, le cri de l'humanité, le cri de l'humain qui vit et qui meurt. Finalement, le cri qui résume toute notre vie au final. Parce que, la vie, elle est là. Elle est faite de joie, puisque c'est une naissance, et d'espérance, puisque c'est une naissance. Elle est faite de souffrance aussi, puisqu'il y a cette douleur. Et puis, il y a cette interrogation autour de la mort, avec la souffrance qu'il y a aussi. Je crois que ces cris qui se font écho dans la Bible, du début à la fin, expriment parfaitement qu'il y a une humanité qui est là et qui est porteuse d'un message tout à fait extraordinaire. Ces cris de l'humain en Jésus, c'est le signe même de la rencontre entre le monde et Dieu. C'est le résumé d'une parole, finalement. Une parole qui, peut-être, si elle semble inaudible au départ, comme cela, parce que les cris sont difficilement déchiffrables, exprime quand même la réalité dont je viens de parler, de la vie. La parole, elle est là. Elle est là, elle est humaine. Ce cri est une parole humaine. Et j'ai écrit avec un H majuscule, que j'ai souligné précisément, parce que ce n'est pas une simple banalité une petite contrariété, même une grosse contrariété qui fait qu'on va crier, mais c'est vraiment le cri de la vie, le cri de la mort, le cri de l'espérance aussi. C'est une parole qui va s'exprimer, c'est ça que ça dit. Ce cri, c'est le cri d'une parole qui va créer tout au long d'un ministère finalement, d'une parole qui donne la vie entre Noël et Pâques, d'une parole qui donne la vie parce qu'elle questionne finalement. C'est assez intéressant de voir comment cette parole qui s'incarne se manifeste. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Plusieurs fois, Jésus pose la question aux gens. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prêcher sur cette question que Jésus pose aux infirmes en particulier. Évidemment, les réponses sont évidentes. Si on pose la question à quelqu'un qui est dans le malheur, quel que soit le malheur, il va répondre à la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je voudrais sortir du malheur, évidemment. Ça va de soi. Et pourtant, personne ne pose la question. Lequel d'entre nous a posé la question à un SDF qui tend la main, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Une question. On a quand même un silence pesant à la question. Parce qu'en fait, on ne saurait pas très bien quoi faire si la personne répondait. On serait bien embêté. Mais Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse ? Mais en posant cette question, il dit à l'être humain qui est en face de lui, tu vois, tu existes. Parce que je te pose une question et j'attends une réponse. Je veux dire, tu as une autonomie de parole, tu peux, toi, répondre à ce moment-là. C'est pour ça que les aveugles vont se lever, les paralysés vont se lever, que les exclus vont se lever aussi précisément, parce qu'ils sont posés là, dans leur humanité, par cette parole, finalement, au travers de leur souffrance. Il va poser d'autres questions, il va dire à ses disciples, et vous là, les disciples, là, qui dites-vous que je suis ? Là aussi, c'est une question dont la réponse n'est pas si évidente que ça, finalement, parce que c'est une réponse qu'on n'a jamais... Trouver finalement, on se pose toujours la question, qui dites-vous que je suis finalement ? On ne sait pas très bien, la preuve c'est que chaque génération de pasteurs, de théologiens, de prêtres réécrit à chaque fois une dogmatique complète sur ce sujet et pour savoir qui est Jésus et percer son mystère. La parole qui est là, elle guérit par l'appel finalement, elle guérit par l'appel du nom et je crois que c'est l'acte créateur. Fondamentale, précisément la parole. Dieu dit, les choses apparaissent. Dieu appelle par leur nom les gens, et les gens apparaissent dans leur identité, dans leur être précisément. Dieu partage, il partage finalement les repas, la Sainte Cène, etc., avec toutes celles et tous ceux qu'il peut rencontrer. C'est fou ce qu'on mange dans le Nouveau Testament. C'est incroyable, dire. Il y a un nombre de repas, je n'en souviens plus. Quand j'ai fait mes études de théologie, Maurice Carrez nous avait dit le nombre de repas, c'est notre prof de Nouveau Testament, nous avait dit le nombre de repas qu'il y avait dans le Nouveau Testament, c'est complètement dingue. On a l'impression qu'ils sont tout le temps à table. Et entre les Saintes Cènes, les repas chez Matthieu ou d'autres, enfin bref, c'est assez intéressant. Bien, je crois que Jésus partage. Voyez, et c'est pas pour rien que ici, quand vous arrivez, vous avez des gâteaux pour vous accueillir, ou des biscuits, du café, que sais-je encore. Je veux dire, c'est le prolongement naturel, finalement, d'un message de l'Évangile qui est là. Je trouve que c'est tout à fait bien que nos églises se lancent dans cette manière de vivre et d'accueillir, finalement. Et puis Jésus, cette parole, il a cette parole, une parole de pardon, puisque vous le savez, le pardon, il est prononcé de manière solennelle, de manière incroyable, sur la croix, précisément. Cet enfant qui vient au monde, qui n'est rien du tout, qui arrive avec le cri de l'humain, finalement, il a en lui cette parole de pardon, cette parole libératrice, finalement. Libératrice, une parole qui va courir, finalement, le long des routes du monde jusqu'à nous, dans des rencontres improbables parfois, mais des rencontres qui feront toujours vivre. La parole, c'est le témoignage de Dieu qui vient à nous. Et je crois que s'il n'y avait pas le cri du nouveau-né à Noël, la parole n'aurait pas tout à fait cet impact qu'elle a, finalement. Parce que si la parole nous touche précisément, c'est que ça résonne en nous, d'une certaine manière. C'est qu'on la comprend, c'est qu'on peut se l'approprier. Dire. Et donc, cette parole, il faut qu'elle soit profondément humaine. C'est pour ça que je pense que l'enfant qui naît à Noël, où qu'il soit après tout, ça nous est bien égal, finalement, mais cet enfant qui vient... signifie véritablement que ça concerne l'humain, que ça va parler humain, ça va parler à l'humain et de l'humain, finalement, pour que nous puissions nous saisir de ces paroles qui seront dites dans la suite, finalement. Et c'est ça qui est important. Le cri de l'enfant nous dit cela, nous dit une parole qui est proche de nous, véritablement, une parole qui est comme nos paroles, finalement, qui va nous toucher dans notre quotidien. C'est pourquoi Jean... dans son entrée majestueuse et magistrale de ce poème extraordinaire, dans son évangile, parle du Logos, de la parole, du verbe, finalement. Un verbe qui est là, qui donne du sens. C'est ça le terme du Logos, finalement, qui donne du sens au monde, qui donne du sens à l'existence. Un Logos qui est transcendant, un Logos qui vient d'ailleurs, qu'on ne peut pas signifier, finalement, mais qui va se vivre et qui nous fait toucher du doigt ce que peut être l'éternité. La parole incarnée, le Logos johannique, qui résume finalement ce que peut être cette parole qui va d'un cri de naissance au cri de la mort, nous dit finalement que le royaume est là et que c'est un royaume de paix et d'amour qui nous concerne tous. Amen.